parce que tu parles
non, mais
je vais vous expliquer ce que c'est.
Radio Campus 88.3.
Quelque chose de vraiment très bizarre.
Calmez-vous
les mecs, parce que
non, mais ça fait rien du tout. Non, mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
Dans les studios de Radio Campus Orléans, c'est parti.
Jamais ça, d'accord. Je jamais ça.
Radio Campus 88.3. 17h, 18h, le mag culturel. Le mag culturel,
Radio Campus 88.3
FM.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Marion, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Bienvenue dans le magazine culturel. Au sommaire aujourd'hui, en première partie d'émission, nous allons voyager dans les années 1939, en pleine Seconde Guerre mondiale, grâce au podcast 3945, Mémoire d'une jeunesse en guerre, d'Amélie Perardo, journaliste à Radio Campus Besançon. Vous retrouverez ensuite votre agenda culturel de cette fin de semaine, puis on va se faire frissonner avec de la littérature d'épouvante, mais on commence cette émission en musique avec Blurry Night de Bart by Delicate et Aloha Input.
I woke up in this blurry night to flee from schemes. I slip back into that blurry night to run from my own fears.
Nous sommes en septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, Henriette, Paulette, René et Julien n'étaient alors âgés que de 9 ans à 18 ans. Ils habitaient Besançon, Ris-Orangy, Coutances. Dans le podcast 3945 Mémoire d'une jeunesse en guerre, ils reviennent sur leur quotidien, leurs souvenirs, combats d'avions, bombardements, rationnements alimentaires. Une partie de leur jeunesse a été brisée. Ils ont souvent dû fuir, se débrouiller dans une nouvelle langue, apprendre de nouveaux métiers, une expérience tragique qui les a parfois conduits jusqu'à la déportation. Dans ce premier épisode, René, du haut de ses 15 ans, a vécu de nombreux exodes. L'adolescent écrit chaque jour ses mémoires dans un carnet pour se souvenir. Il raconte son quotidien et les événements marquants qu'il traverse, comme le bombardement meurtrier de la gare Viotte à Besançon. 3945, Mémoire d'une jeunesse en guerre. Un podcast par Radio Campus Besançon et réalisé par Amélie Perardo.
On était dehors à partir de 8h.
On était des enfants.
Une jeunesse agitée, hein.
On avait toujours peur qu'une bombe tombe dessus, sur la maison. Hein.
Maison de Rennes, Angoulême, le camp de Compiègne et puis la déportation.
Quand je dis ça, ça nous restera jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est vrai, on ne peut pas oublier ça.
Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. La Pologne est envahie par l'armée allemande. Deux jours plus tard, le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France, liées par des traités, déclarent la guerre à l'Allemagne. Un combat qui dure 6 ans et qui oppose deux camps, les puissances démocratiques alliées et les puissances totalitaires de l'Axe. D'un côté, la France, la Grande-Bretagne et le Commonwealth, mais aussi l'URSS, les États-Unis, la Chine. De l'autre, l'Allemagne, l'Italie ou encore le Japon. 39-45, Mémoire d'une jeunesse en guerre. Un podcast produit par Radio Campus Besançon et réalisé par Amélie Perardo.
On ne peut pas s'imaginer.
René avait 15 ans quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Il vivait avec son frère Jean et ses parents au 46 rue de Trey à Besançon.
J'ai quitté Besançon au moment où les Allemands étaient à Gré. Alors ils se rapprochaient petit à petit. La population était sur les nerfs, quoi. On disait n'importe quoi. Mon père était au chemin de fer. Ça faisait 3-4 jours qu'on n'avait pas de nouvelles. Parce qu'il était chef de train, donc il était constamment sur les voies. Ma mère est venue nous réveiller de très bonne heure le matin. Elle nous a dit de s'en aller, quoi. À contre-cœur, parce qu'elle était toute seule à prendre l'initiative. J'avais un frère qui avait un an de moins que moi. On a réuni 2-3 personnes de jeunes du quartier pour s'en aller où on ne savait pas à ce moment-là. On faisait comme tout le monde descendait sur le sud, alors on partait sur le sud. On parlait beaucoup, c'était la panique de l'année. Bah. J'avais un carnet et tous les jours je notais. Tel jour j'ai fait ça, j'ai fait ci. Qu'on sache ce qu'il en était, quoi. Pour moi personnellement et pour les autres.
René aura noirci des pages entières de son carnet, qu'il retranscrira à la fin de la guerre dans un gros classeur intitulé « Mémoire de guerre 1940-1945 ». Un peu plus tard, il s'enregistrera sur des cassettes pour raconter son histoire. Pour ce podcast, j'ai pu y avoir accès. C'est en les numérisant que je me suis rendu compte qu'elles étaient en bon état et que René avait même pensé à inclure une ambiance musicale. En voici des extraits.
Nous avions plié bagages et roulions déjà dans la direction du sud quand, en arrivant à la sortie d'Arbois, des braves gens nous arrêtèrent et nous demandèrent où nous comptions aller de cette sorte. « Vers le midi, leur dis-je. Pauvres jeunes, vous croyez aller dans le midi de la France, dans ce chaos d'autos et de camions ? Des trains, notamment de jeunes, se sont formés à Besançon ces dernières heures. De ce fait, vous auriez meilleur temps de vous rendre en gare et d'attendre un de ces convois. Sans rien demander de plus, nous nous rendîmes donc à la gare tout en remerciant ces gens de cette dernière nouvelle. Nous descendîmes donc de vélo car il était impossible de rouler en retournant sur nos pas. En gare, depuis quelques instants, nous eûmes notre première alerte aérienne. Un peu émotionné par cette arrivée à une très haute altitude de quelques avions allemands qui survolèrent la gare où venait d'arriver un train sanitaire. Aussitôt, chacun cherche un gîte plus sûr. Nous sautâmes rapidement par-dessus la balustrade et allâmes nous tapir dans des herbes de marais sous des peupliers se trouvant à proximité, allongés à même le sol. Heureusement que nous étions au mois de juin et qu'il faisait chaud. De ce fait, ces marais étaient secs. Après que le calme fut revenu, nous retrouvâmes sur le quai le train dit sanitaire qui était bondé de réfugiés et qui s'ébranlait. Mais quelques minutes seulement après, nous pûmes nous hisser dans le train qui suivait et qui était composé que de wagons à bestiaux.
C'est là qu'on s'est rendu compte vraiment que une débâcle, c'est pas beau, quoi. Tout le monde s'en va, se sauve, on a peur. Enfin bref, les villes faisaient quand même peur. Il y avait tellement de réfugiés sur les routes. Parce qu'il y avait non seulement des Français, mais il y avait beaucoup de Belges, beaucoup de Hollandais, beaucoup de gens du Nord, quoi. Alors il y avait c'était monstrueux comme défilé. On n'avait pas 36 chemins à faire. On ne pouvait pas aller en Suisse, puisqu'il faut passer la frontière et tout. Et puis les Suisses étaient très, très vigilants. Ils avaient déjà beaucoup de prisonniers et tout. Alors qu'il fallait nourrir et tout. C'était automatiquement, on descendait dans le sud. Et nous, on est arrivés jusqu'à Avignon. Parce qu'à Avignon, on ne pouvait plus aller plus loin. Ils avaient pris l'initiative. Il y avait beaucoup de jeunes, comme moi, j'étais pas tout seul. Hein. De nous parquer à la préfecture et de là, nous envoyer dans les différents pays, villages du Vaucluse. On était dans des villages vraiment à l'abri. Pas question de guerre. Ils savaient s'ils avaient la TSF, comme on dit. C'est la paix, quoi. Alors, ils nous avaient logés dans une maison qui était à moitié en ruine. Mais il y avait des chambres, donc ils avaient retapé ça. Et puis, j'avais un ami de Besançon qui était avec moi depuis un moment, qui a fait toute la débâcle avec moi. Et on s'est retrouvés avec des Lyonnais aussi. Alors voilà, on se faisait notre cassot, on se faisait... Enfin bref, c'était la paix. Alors on attendait une chose, c'est que la fin de la guerre, comme on dit, elle allait voir. Et surtout quand on la subissait.
Bien entendu, j'eus le cœur serré d'apprendre que Besançon se trouvait désormais de l'autre côté de cette ligne de démarcation. Nous n'avions plus guère d'espoir de remonter rapidement chez nous. Il nous fallait attendre. En attendant, nous touchions une indemnité de réfugiés de 10 francs par jour. Enfin, les jours s'égrenaient tranquillement sous le chaud soleil de Provence. En fin de journée, les braves villageois faisaient leurs apparitions. Les filles passaient et repassaient devant notre hôtel particulier. Et cela sentait bon l'été.
On est revenu comme on a pu, également, depuis le midi, en vélo. J'ai fait la connaissance des premiers soldats allemands à côté d'Arbois, entre Arbois et Poligny.
Nous pûmes apercevoir à quelques centaines de mètres une barrière noire, blanc, rouge à travers cette route nationale, flanquée sur le côté d'un immense drapeau à croix gammée. La croix gammée flottant là au beau milieu de notre territoire. Quelle vision affreuse, ne pouvions-nous y croire. Cependant, c'était bien la réalité.
Je vais avec mon copain, on s'est déplacé deux fois pour venir à cette frontière parce qu'on avait l'idée de la traverser comme ça. Mais pense-tu, les Allemands ne voulaient pas. Et alors on est venu, je vois une petite baraque à côté de l'étendard. Et dedans, il y avait un petit bureau et un officier. Il est arrivé un orage. Mais vraiment, ça tombait. Alors, où voulez-vous, maître ? Vous n'avez pas d'imperméable, rien du tout. Je me suis permis d'aller dans la petite baraque. Ça tombait. D'un seul coup, il se lève. Raus ! Qu'il nous fait. On m'avait pas appris que c'était Raus, il fallait dégager. Au moment où ça tombait le plus, on s'est retrouvés sous la flotte tous les deux, avec mon copain. Il avait une je me rappelle toujours, il avait un appareil photo, et depuis son bureau, depuis ça, il nous a pris en photo. On était sous la flotte. Oui, c'était pas bien beau, mais enfin, pour eux, ils vivaient leur époque.
Rentrant de ma petite exode de juin 1940, il me fallut retrouver du travail en France occupée. Et c'est à nouveau à la fabrique de valises Lamavegue que je rentrai pour quelque temps du 1-8-1940 au 18-1-1941. Je venais de faire connaissance avec le patron du relais 57, station service à Saint-Claude, Besançon, qui m'embaucha comme apprenti mécanicien le 1-2-1941. Malheureusement, c'était vraiment l'occupation, et de ce fait, son garage était occupé à 80% par les soldats du Panzer Division et leurs tanks, habillés de noir avec la tête de mort sur le calot. Ils avaient vraiment fière allure. En fin de compte, je m'aperçus bien vite que ma candidature avait été retenue, plus pour faire l'homme à tout faire que l'apprenti. Quelques mois de ce travail, et je remercie mon exploiteur, le 35-41. À l'époque, il y avait de l'embauche, et me voilà, le 1-6-1941, aux établissements Brochet, fabrique de pain d'épices. Oh, juste le temps de visiter, de voir fabriquer la pâte, de la couper moi-même, de la faire frire, et de me brûler les doigts en grattant les moules encore très chauds. Je quittais donc les établissements Brochet le 31-8-1941 après démission. Le travail ne me convenant pas est très dur pour mon âge. C'est donc aux établissements Gustave Sêtre, frère à Montjoux, que j'échoue le 1-9-1941. Une petite fabrique d'étiquettes métalliques. Une année s'écoula presque, puisque je quittais donc ces établissements le 31-10-1942. Il était temps, car ce fut l'inévitable appel de la Grande Allemagne pour l'effort commun de la défense européenne. L'expédition en masse de travailleurs vers le Grand Reich, après délivrance d'un billet gratuit et facilement accessible. Devant cette menace, j'en conclus tout naturellement un plan bien défini pour y échapper. Démarche, constitution de mon dossier et engagement. Sans plus tarder dans les rangs de l'armée d'armistice. Seul moyen pour échapper à ce départ. 10 jours après cette décision, tous les ouvriers des établissements Sêtre, y compris le patron, étaient conviés pour ce voyage en Allemagne. Quant à moi, eh bien, l'armée me convoquait pour partir pour 4 années à son service.
Le 27 novembre 1942, quand ils sont venus, que la flotte française s'est sabordée, quand ils sont venus nous vider des casernes, l'armée allemande, ils nous disaient « Fertig, armée française ! Fertig, armée française !» On avait tout de suite compris. Et puis, il fallait dégager. Alors, ils nous ont fait prisonniers pendant toute une journée, à moitié d'une journée. On ne savait pas ce qu'ils allaient faire de nous. Le soir, on a appris qu'ils allaient nous donner une permission renouvelable de 3 mois. Et ils nous renvoyaient chez nous. Si bien que je suis revenu à Besançon avec tout l'équipement, comme on dit. Et pendant 3 mois, on a vécu. Et j'étais payé, hein, comme engagé volontaire. Mais au bout des 3 mois, il y a eu une convocation. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de vitre au musée. Il y avait les arcades et c'était à l'air. Et ils avaient mis des tréteaux avec des planches pour faire bureau. Et là, ils prenaient des comptes, c'est-à-dire savoir si on était là ou on avait répondu à la convocation.
Il nous était précisé qu'en cas de refus de départ, nous étions considérés comme déserteurs, puisque nous étions remobilisés à partir du 1er mars. Donc 1943. Quant à la destination annoncée, elle était jusqu'au dernier moment inconnue. Rien à faire, le mieux était de fuir.
à moins que nous n'ayons l'intention d'aller faire une petite tournée dans le Grand Reich. Notre probable destination inconnue. Tous, du moins la plupart, n'étaient pas très disposés à s'engager dans cette aventure. Après cette nouvelle, nous rentrâmes dans un bar autour de notre place du marché tout en discutant de ces derniers événements. Et nous pûmes nous rendre compte que plusieurs camarades se laissaient aller aux pessimistes et prétendaient qu'il n'y avait rien à faire d'autre que d'obtempérer, c'est-à-dire de répondre par l'affirmative à cette convocation. Je ne l'entendais pas de cette oreille. Et sitôt sorti du bar, ma décision était prise. Je voulais fuir.
Alors, on a évité d'être en groupe. Alors, il y en a la moitié qui sont partis. Oh non, ils étaient deux, trois qui sont partis en Suisse, qu'on en bavait toute la nuit, parce qu'ils avaient été piqués par les douaniers suisses, qui étaient très attentifs à ce qu'il y ait le moins possible de réfugiés qui rentrent chez eux, parce qu'ils étaient couplés en Suisse.
S'en suivent plusieurs aventures pour René. Fin février 1945, un nouvel exode. René et ses compagnons veulent regagner la Suisse. Il écrit dans ses mémoires, je cite, « La résistance s'organise et en ce qui me concerne, il faut éviter le piège allemand. » Tentative manquée pour la Suisse, retour à Besançon, où un nouvel exode vers l'Afrique est en perspective. Nouvelle rencontre et tentative de fuir. René écrit plus de 150 pages durant la Seconde Guerre mondiale. Dans son carnet de guerre, un épisode marquant. Celui du bombardement de la gare Viotte à Besançon.
Cette nuit-là, comme beaucoup d'autres, il y avait les avions qui passaient, les avions alliés qui allaient bombarder l'Allemagne, etc. Enfin bref. Exceptionnellement, il y a eu un coup de Trafalgar qui nous a un peu réveillés, mon frère et moi. Et on a vu très distinctement, il y avait une bagarre aérienne entre deux avions au-dessus de Besançon. Et d'un seul coup, une boule de feu qui tombe en plein sur la gare. J'ai demandé à ma mère, j'ai dit, ben, tu permets qu'on descende quand même juste un coup d'œil parce que il doit y avoir du dégât et puis pour donner un coup de main. Or, si bien je suis descendu avec mon frère, à la lueur de la gare, pourtant c'était à Saint-Claude, hein. Alors, il y avait un beau petit feu de Bengale, hein, comme on dit la gare. C'était tout en bois. Mais j'étais dans les premiers témoins, hein, c'est sûr. Il n'y avait pas beaucoup de Byzantins à ce moment-là. Hein. On a commencé à avoir des cadavres. Ma première vision, c'est, je l'ai su par la suite, que c'était sa grand-mère, ou je sais, d'un coiffeur qui habitait en face à la gare. Enfin, moi, je l'ai vu, elle avait la poitrine toute ouverte. Il y avait des cadavres un peu partout, jusque sur les glaciers et tout. Pour finir, on est arrivé au bout de ce qu'on peut appeler la gare à l'époque. Et il y avait naturellement des abris. Et il y avait beaucoup de permissionnaires. Ça n'arrêtait pas les trains de permissionnaires en gare. Et en définitive, il y en avait sans doute qui étaient de sous la tonne, des gens enterrés, comme on dit. Alors j'ai vu, moi, les deux aviateurs anglais. Je les ai vus, ils étaient comme, ils avaient l'air de s'embrasser. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait donc collision entre un Allemand et puis un Anglais. J'ai vu ça parce qu'il y avait les ailes de derrière l'avion, avec la croix gammée. Alors les Allemands sont arrivés tout de suite, les pionniers allemands. Et puis, ils ramassaient tout, puis ils mettaient de manière qu'on ne sache pas. Et moi, j'ai vu ça. Et en définitive, on est redescendu un peu, toujours. Tout ça, il n'y avait pas besoin d'un panneur, c'était les flammes, l'incendie de la gare qui nous conduisait. Moi, j'étais fatigué de voir ça. Puis certainement mon frère aussi. On a dit, on va remonter chez nous. Et on a repris la route, parce qu'à un moment donné, les Allemands sont arrivés, toujours en rang, hein, arrivés à la discipline. Hein, et il y avait un officier allemand qui les suivait. Puis on était deux, trois civils sur le trottoir. Raus, Raus, Arbeit, Raus. On n'a pas tardé à dégager devant les pompes funèbres. La route de Zoul, c'est là que j'ai vu trois doigts de femmes qui avaient certainement explosé au moment du bombardement, qui avaient été pétées depuis la gare. Hein. Et il était dans la rigole. Et voilà mon histoire de gare.
Comprendre cette guerre est impossible, mais il est important de la connaître pour éviter que recommence ce qui est déjà arrivé. Voilà comment René commençait ses mémoires et je tenais à le citer une nouvelle fois. J'aimerais aussi lui rendre hommage et le remercier d'être revenu sur ces événements marquants. Il est décédé au printemps 2023. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie signe officiellement sa capitulation. La paix peut donc revenir en Europe. Dans le Pacifique, le Japon signe l'armistice le 2 septembre 1945. Le bilan exact des victimes ne sera jamais véritablement connu. On estime à 60 millions les pertes humaines. 39-45, Mémoire d'une jeunesse en guerre. Un podcast produit par Radio Campus Besançon et réalisé par Amélie Perardo. La série de témoignages est à retrouver sur campusbesançon.fr.
Et voici pour ce premier épisode de 39-45, Mémoire d'une jeunesse en guerre, un podcast produit par Radio Campus Besançon et réalisé par Amélie Perardo. Vous pouvez réécouter ce premier épisode ainsi que les quatre suivants sur campusbesançon.fr. Vous êtes toujours dans le magazine culturel. Et voici Tenir debout de Rossé. Restez avec nous sur Radio Campus Orléans. Dans quelques instants, votre agenda des sorties.
Où sont nos histoires? On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires? On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. S'il est depuis des siècles, on fait tourner le manège. On voit pas la recette de nos empreintes dans la neige. Ils ont cassé la chaîne pour pas que l'on se rappelle. Pour pas qu'on se souvienne que nos aïeux étaient balèzes. Nos histoires authentiques, un détail dans leurs gros livres. Pour que l'Occident vive, toujours ce fouet, je se clean. Et ce pays produit des tabous et des phobies. Dans la chronologie de toutes ces colonies. Les écoles nous manquent mal parce qu'elles veulent pas le scandale. Cherche à faire du rentable, mais la version est bancale. On efface nos histoires, on garde au pire des hommages. Pour rendre plus honorable tout un empire colonial. Tous nos héros s'effacent, font pas partie du débat. Faut remplir nos mentales avec des âmes et des voix. Qu'on cite Abdelkader, Cabral ou bien Makeba. Ariette Tubman, Césaire ou Keïta Soudiata. Où sont nos histoires? On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires? On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. On laissera quoi aux gosses à part une vie de start-up? Des cagnottes, des hold-up, des ragots et des carottes. Aucune bonne intention, pas de projet de société. Cherche pas à protéger, cherche pas à s'autogérer. Tout le monde s'est fait léser, on aimerait se référer aux frères et sœurs passés qui auraient pu nous léguer des rêves et des échos, de l'espoir et du bon sens. Tous nos acquis sociaux et nos rêves d'indépendance. On sait rien de nos comptes, des combats qui les animent. Africains immigrés et ouvriers pactisés. Quand ils se trouvaient contre la face de l'impérialisme. Et pour s'organiser, ils devaient fraterniser. Tout ça a disparu pour qu'on ne sache pas le faire. Nous on se tire dessus mais on était frères hier. Fifi c'est triste mais il se passe rien de bien. Si tu récites un récit qui n'est pas bien le tien. Où sont nos histoires? On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires? On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout.
Amilcar Cabral, Frantz Fanon, Tina Attila, Mohamed, Maïga, Malcolm X, Paulette, Nardel, Hollande, de Gouche, Ruben, Enyobé, Myriam, Makeba, Kwame Touré, Sekou Touré, Adolfo Kaminski, Ali Lapointe, Che Guevara, Ho Chi Minh, Vo Nguyen, Gap, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Angela Davis, Keita, Sundiata, Emir Abdelkader, Marcus Garvey, Rosa Luxembourg, Solitude, Che Kanta Diop, Bobby Sands, Aimé Césaire, Rosa Parks, Léon Gontran, Damas, Francis Janson, Henri Alec, Jean-Jacques Dessalines, Jean-Marie Chibaou, Ariette Topman, Fid Milayo, Ransom Kouti, Assata Chakour, Germaine Tillon, toutes les anonymes, tous les anonymes, les mères, les pères, les chers, les sages, les martyrs, les générations sacrifiées.
Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout.
Votre agenda de cette fin de semaine, je vous propose d'aller à la rencontre de David Cadouche et Raphaël Moreau, qui se produiront demain à la scène nationale de 20h30, excusez-moi. Ce duo de musiciens mélangeant piano et violon vous feront valser, tarif entre 15€ et 25€. Nous allons donc vous faire découvrir David Cadouche, qui a interprété la scène de la forêt, OP82, numéro 9 de Schumann. Voici David Cadouche que vous pouvez retrouver à la scène nationale. Vous pourrez aussi vous rendre au CDNO ce vendredi à 20h30 afin de retrouver le spectacle À tout rompre de Le Oise Group, un spectacle pour les petits et pour les grands. Tarif plein 18€ et tarif enfant 8€, c'est gratuit pour les étudiants. L'Astrolabe vous présente le Fusion Festival samedi 17 de 23h à 5h dans la grande salle de l'Astrolabe, des prix variant de 18 à 10€. Vous pourrez apprécier la prestation de DJ JPV de Radio Campus Orléans et le collectif Cluster que nous allons tout de suite écouter, donc In Too Deep de Sum41, remixé par Pierre le Disque Jockey de Cluster. Et c'était donc In Too Deep de Sum 41, remixé par Pierre le disque jockey de Cluster, que vous pouvez retrouver à l'Astrolab pour le Fusion Festival. À la passerelle de Fleury-les-Aubrais, il y aura aussi le spectacle Julia par le collectif Nightshot le 17 février à 20h30 dans la salle Jean Cocteau, tarif plein 20 euros et 15 euros pour les moins de 26 ans. On retrouve également l'apérodio qui sera présenté par votre radio préférée au 108 rue de Bourgogne le vendredi 23 février de 19h à minuit avec au programme Kija à 19h suivi de Solitaire Social Club, de Klaus et de DJ Vivi qui finira cette soirée en beauté. Voici le premier titre de que Klaus mixera. C'était donc Fuck Myself Up de La Vie Sauvage, feat. Pet Snake. C'était l'agenda de vos spectacles à venir. Soyez curieux et curieuses. S'il pleut, vous pourrez toujours bouquiner, vous l'aurez compris. Dans quelques instants, on va se faire peur avec de la littérature d'épouvante. Mais tout de suite, nous allons écouter Panama Red de Thomas Naïm. Thank you. à l'instant, c'était Makuroi Mizu de Yamawarashi. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans dans le bac culturel. Qui n'a jamais ouvert un livre d'épouvante en étant enfant un soir d'été sous sa couverture éclairée avec la lampe torche ? L'effet escompté de ces romans d'épouvante sont l'angoisse auprès du lecteur ou la peur. Vous connaissez sûrement les romans comportant des vampires, des loups-garous et des phénomènes surnaturels tels que Dracula de Bram Stoker ou Frankenstein de Mary Shelley. Mais il existe également des romans d'horreur avec des tueurs en série et des psychopathes. Ces romans vont être souvent apparentés au genre de thriller ou de roman policier. La littérature horrifique a des origines plutôt floues, mais certains chercheurs pensent que cette littérature commence avec les contes du XVIIe siècle, tels que La Barbe Bleue de Charles Perrault, qui est un conte relatant d'un homme horrible tuant ses nombreuses femmes dans son cabinet. D'autres contes vont avoir des adaptations violentes et traumatisantes, notamment l'adaptation de Blanche-Neige des frères Grimm, où, à la fin de l'histoire, la méchante reine doit garder des chaussures de fer brûlant et doit danser jusqu'à la mort. Ce procédé d'adaptation horrifique de contes est repris dans les romans modernes avec la collection de livres « Les contes interdits » écrits par différents auteurs. Le genre horrifique a beaucoup évolué au XVIIIe siècle avec l'influence de la religion et de l'Inquisition. Sous cette période, nous pouvons retrouver beaucoup de romans concernant l'enfer, le diable et les sorcières, tels que l'enfer de Dante dans la Divine Comédie. S'ensuit les histoires de fantômes avec l'époque gothique. Nous pourrons y retrouver des paysages nocturnes, sombres, ténébreux, avec des personnages maudits tels que des bêtes, des anges déchus ou des vampires. Au XIXe siècle, la littérature d'épouvante s'ancre de plus en plus dans la vie quotidienne. On retrouve des œuvres mythiques telles que le Horla de Maupassant. C'est à cette époque que l'auteur va se mélanger avec le fantastique. Que l'horreur va se mélanger avec le fantastique. Avec la modernité, les romans d'horreur vont s'inspirer de la science-fiction, de la psychologie et du roman policier. On va pouvoir retrouver des romans d'horreur jeunesse tels que « Chair de poule » de R.L. Stein. Et des auteurs vont s'ancrer à la tête du genre, comme par exemple Stephen King ou Lovecraft. Pour finir cette chronique, je vous invite tous et toutes à lire « Joyland » de Stephen King. C'est l'histoire de Devin Jones qui a 21 ans. Il débarque l'été 1973 à Joyland, petit parc d'attractions sur le littoral de la Caroline du Nord. Il est embauché avec d'autres étudiants pour compléter l'équipe de forains. Sa rencontre avec un petit garçon doué de voyance, atteint d'une maladie grave, va changer la vie de Devin, obsédé par le mystère du train fantôme soi-disant hanté par le spectre d'une femme égorgée 4 ans auparavant. Le jeune homme va se lancer dans l'enquête du meurtre. Va-t-il découvrir qui a tué cette femme ? À vous de le découvrir dans ce roman mêlant mystère, paranormal et thriller. Après avoir fermé ce livre, l'enfant que vous étiez n'a probablement pas fermé l'œil de la nuit de peur qu'un monstre surgit dessous le lit. Et en fond sonore, vous écoutiez The House Next Door in Haunted de Miracle Forest, une créatrice de fond sonore sur YouTube. Et voici tout de suite La Passion de Christo de Trio Roycel. continue avec Open Up de K-West dans le magazine culturel. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM.
We could keep it simple, towering over us like a rough coat. It doesn't have to be complicated, educated. I know you like to travel. We already got our passports in the bag. We don't have to go anywhere. Let our love unravel. Could you be the best I've ever had? Seems like you've always been there. Treat you like you won't forget. Spend some time.
Plus 88.3.
17h, 18h, le mag culturel. Le mag culturel.
c'était Data Work de Lisa Aikin et Monologue. C'est donc la fin de cette émission. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. C'était Marion de Radio Campus Orléans.
Radio Campus 88.3. 17h, 18h, le mag culturel.